C'est une belle prière qui invoque l'Esprit Saint dont on a besoin ce soir aussi, comme on en a eu besoin les deux derniers soirs. Nous allons l'invoquer, demander qu'il puisse descendre sur chacun, chacune d'entre nous, qu'il puisse éclairer le cœur de chacun, chacune d'entre nous et nous apprendre à aimer le Christ, à le redécouvrir, à le suivre, à le garder dans nos vies. Nous allons dire à notre Père avec l'intention d'être remplis de l'Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Mes amis, nous continuons notre cheminement parce que nous sommes en train de redécouvrir le Christ et nous disions que le Christ était important pour nous parce qu'il est au cœur du cœur de notre foi. Alors, je me rappelle que hier, je finissais la rencontre avec surtout l'image de Jérémie, où je vous parlais de la naissance, que nous avons été choisis par Dieu depuis notre naissance, depuis notre conception. Et j'insistais pour dire qu'en fait, dans notre vie, la main de Dieu nous accompagne. Alors, je voudrais donner plus de précisions sur cette expression-là, la main de Dieu nous accompagne. Tel que je l'ai expliqué hier, peut-être que vous êtes resté sous l'impression que dans la vie chrétienne, tout va beau, il n'y a jamais eu d'accroc, rien du tout. Mais quand j'ai dit l'expression « la main de Dieu nous accompagne », ça veut tout simplement dire que Dieu est présent dans nos vies. Que ce soit dans les malheurs, que ce soit dans la souffrance ou que ce soit dans la joie, Dieu est présent continuellement. Même quand dans les apparences, pour nous, on ne le voit pas. Il est là. Rappelez-vous, Jésus sur la croix, d'abord à Gethsémani. Le Seigneur implore, « Père, si ce calice peut passer en dehors de moi, mais il se rend compte qu'en fait, la volonté du Père et les circonstances de sa vie le conduisaient vers la mort. Il a accueilli la mort. Et à la mort, il dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est l'expérience d'une âme humaine qui sent ce qu'on appelle l'absence de Dieu, le silence de Dieu. Mais le même Jésus, avant de mourir, alors il dit, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Est-ce que Dieu a exaucé Jésus à Gethsémani? Non, Jésus est mort. Mais il faut voir comment est-ce que Dieu a exaucé Jésus parce que Jésus est ressuscité. La réponse de Dieu s'est présentée d'une autre manière, pas d'une manière humaine qu'on peut s'attendre. Il a prié pour qu'il soit délivré de ce calice. Dieu devait prendre ce calice, le mettre à part, libérer son fils. C'est comme ça qu'on pourrait voir nous autres, les humains. Peut-être que Jésus, comme humain, pouvait voir cela. Mais non, il est parti par la mort et Dieu a fait un geste encore plus extraordinaire de la mort. Il a fait revenir son fils à la vie. Et quelle vie? Une vie qui ne meurt plus, comme dit saint Paul. Le Christ ressuscité, une fois ressuscité, ne meurt plus. Il vit pour toujours. Voyez-vous, j'ai lisé certains témoignages ce matin, justement pour essayer de nourrir cette réflexion, cet échange aujourd'hui. Je suis tombé sur la réflexion de celui qu'on appelle Elie Wiesel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, en tout cas il est mort aux États-Unis. Il avait assisté, il était en fait juif, et puis il était pris dans le camp de concentration à Auschwitz, que nous connaissons. Alors cet homme-là, en fait jeune, il a été pris là, et puis ce qui est arrivé, c'est qu'il a écrit un livre plus tard, parce que quand il sera libéré, il va partir en France, il va étudier, plus tard il va aller aux États-Unis, il sera un grand professeur, il a écrit beaucoup de livres, et il est resté populaire, en fait, il était prix de Nobel en 1986, et il est décédé l'an dernier, au mois de juillet. Et il raconte dans un livre qui est devenu très populaire, best-seller, depuis 1958, il raconte son expérience dans le camp de concentration. À un moment donné, il raconte qu'il y avait une série de pendaisons, continuellement, horribles. Voilà qu'une fois, une pendaison qui était encore plus abominable, on avait pendu trois personnes. On le faisait devant tout le monde. Trois personnes. deux adultes avec un jeune garçon. Il dit que le jeune garçon était tellement populaire dans le camp, on l'aimait tellement, il était tellement sympathique que ça nous faisait souffrir de le voir mourir comme ça. Alors, on le pend. Ils sont dans la foule. Wesel dit que quand on les pendait, les deux premiers, les adultes, ils ont crié « Vive la liberté !» Et puis, le jeune homme, on le met, il ne dit aucun mot. On le pend. Alors Wesel dit que derrière lui, il y avait quelqu'un qui disait « Où est-il Dieu ?» Quelques temps après, on les a fait descendre. Les prisonniers sont partis les voir. On dit que les jeunes hommes, comme s'ils n'étaient pas encore morts, ils bougeaient encore un peu. Wesel dit que le même homme, il est encore derrière lui, il dit « Où donc est Dieu ?» Alors, Elie Wiesel dit que c'est drôle, il avait senti comme une réponse qui montait de ses tripes, qui montait en lui, et qui lui disait « Mais il est donc là Dieu, celui qu'on a pendu sous la potence !» Il y a Eti Elouzen, une juive aussi, d'origine hollandaise, qui est morte à 21 ans, à 29 ans, je veux dire. Elle ne croyait pas en Dieu. En fait, plus tard dans sa vie, elle avait peut-être 24 ans, peut-être 25 ans, elle s'est convertie et a découvert Dieu. Alors il dit ceci, que par l'exercice d'aller à l'intérieur de soi-même, elle est arrivée à découvrir Dieu. Elle dit que Dieu, en fait, c'est comme quelqu'un qui est dans un puits très profond. Je l'ai trouvé chez moi dans un puits très, très profond. Et je m'entretiens avec lui. Mais ça arrive que parfois, il y a des briques qui viennent se mettre autour et il reste noyé. Je ne peux pas entrer en communication avec lui. Il faut que je travaille continuellement à débarrasser, enlever ces choses-là du puits pour que je reste en contact avec lui. Alors, elle aussi était prise dans le camp de concentration. Et selon son expérience, parce qu'elle a écrit un journal, selon son expérience à elle, elle dit que dans sa profondeur, dans son âme, elle attendait Dieu lui dire « J'ai besoin de ton aide ». C'est nous qui devons dire, nous qui sommes des prisonniers au centre de concentration, qu'on te dit « Dieu, viens nous aider ». Elle dit « J'entendais en moi le Seigneur qui me dit « J'ai besoin de ton aide ». Que tu m'aides à donner de la force à ces personnes qui t'entourent. Et dans ce journal, elle disait que, et selon des témoins aussi, elle était toujours heureuse, remplie de paix, et elle aidait continuellement les prisonniers à sortir de quelques difficultés qu'ils connaissaient. Pourquoi je vous raconte cela? C'est pour dire que nous tous, vous et moi, nous avons connu des malheurs dans nos vies. On ne peut pas dire que dans une vie chrétienne, personne ne souffre. Ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu ne vas pas te blesser la cheville. Mais tout ce que je voudrais arriver à dire avec ma foi, avec la vôtre, on va mettre ensemble, c'est que même quand tu te blesses la cheville, Dieu est là. C'est que Dieu est présent dans ta souffrance, dans ton opération, dans ta maladie incurable. Dieu est là. C'est ça toute la foi qu'il faut chercher. Regardez, le père Timothée Radcliffe, qui était un père dominicain, il est resté 9 ans comme supérieur de l'ordre, maître de l'ordre. Alors, comme maître de l'ordre, il a voyagé dans le monde entier. Il a une belle expérience dans ses conférences, dans ses livres. Il partage beaucoup de ses expériences. Alors, il raconte ceci. Il dit qu'une fois, il est arrivé au Rwanda et malheureusement, c'était l'année où il y avait le génocide. Alors, il était à Kigali, la capitale, mais il devait aller voir des sœurs dominicaines et des frères dominicains qui étaient au nord du pays. Il devait voyager par route. Ils essayaient de trouver des moyens. L'ambassadeur belge qui était à Kigali dit « Écoutez, n'osez pas, ça ne va pas très bien, les routes, il y a partout des militaires, des milices. Non, ça ne va pas très bien, c'est mieux de rester sur place. » Ils se sont entêtés, ils se sont débrouillés pour partir. Et le père dit que le voyage était long, qu'il y a eu des barrages et des barrages, des gens masqués avec des fusils qui les menaçaient, que plusieurs fois il a pensé que c'était la fin de sa vie. Mais toujours est-il que ils sont arrivés au nord. Ils ont été chez les sœurs. Les sœurs les ont amenés dans leur hôpital. C'était l'hôpital des enfants. Quels enfants? Mais les enfants qui avaient des membres coupés parce qu'ils ont marché sur une mine. Alors le père raconte qu'il en a vu tellement de souffrances. Mais ce qu'il n'oubliera jamais, c'est cet enfant-là qu'il a vu, qu'il avait perdu ses deux jambes, un bras et un œil, dit-il. Il regarde là, il essaie de poser la question à les sœurs, il n'y a pas d'argent pour acheter des béquilles, encore moins pour des prothèses. Les enfants, ils se déplacent en sautant, en sautillant, dit-il. Il dit, il s'est retiré, il est parti en brousse, il a sangloté, il pleurait, il n'avait jamais vu tant de souffrance. Il dit, ce soir-là, chez les sœurs, dans la chapelle, il essaie de célébrer la messe. Alors, la chapelle, déjà, il y avait dans les murs de trous de balles, parce que, évidemment, ça avait été une fois visé. Il dit, il célèbre la messe, incapable de faire son homélie, avec ce qu'il avait vécu, il n'avait pas de mots. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il était tellement frappé par sa souffrance. Alors, il dit, il faut garder le silence. Parce que Dieu est là dans le silence aussi. Dieu est présent, mais dans le silence. Alors il dit, j'ai simplement célébré la messe. Ce jour-là, j'ai compris qu'en célébrant la messe, les paroles même de Jésus étaient des paroles qui pouvaient te guérir. Quand j'ai pris ce jour-là le pain et que j'ai dit, ceci est mon corps donné pour vous. Ça avait toute sa signification ce jour-là, dit-il. Les paroles du Christ. Il était présent à travers son corps. Pour dire, quand on vit une expérience de souffrance, quand on vit une expérience de maladie, de n'importe quelle souffrance, c'est vrai, on n'a pas toujours de réponse à tout. On n'a pas toujours de réponse à tout. Parce qu'il y a un autre exemple, regarde, toujours dans le camp de concentration, parce qu'il y a eu tellement de souffrances là, mais encore aujourd'hui, quand tu vois dans des différentes guerres, même en Syrie, etc., en Irak, certainement qu'il y a des histoires semblables. Mais au camp de concentration, cette fois-ci, c'est un juif d'origine italienne. Eh bien, lui, là, il a fait son doctorat en chimie. Mais ça, avec le temps, quand il s'est libéré, en tout cas, il a découvert l'écriture, il écrivait aussi. Lui, il raconte ceci, une petite histoire. Il dit, ce jour-là, dans le camp de concentration, il avait tellement soif, il mourait de soif. Alors, il passe devant une bâtisse, il voit comme un glaçon. Oh, il veut prendre la main pour prendre. Le garde lui dit, hé, ne touche à rien là. Alors il se retourne vers le garde et dit, mais pourquoi? Le garde lui dit, ici, il n'y a pas de pourquoi. Alors lui, en réfléchissant, il dit, il y a dans ce monde de foi des souffrances où tu ne sais pas répondre le pourquoi et le comment. Une fois, le père Newman avait des amis, un couple ami. Ce couple-là a mis du temps pour avoir un enfant. C'est difficile. Finalement, ils ont eu un enfant. Parce qu'ils priaient ensemble avec Newman, le prêtre, ils essayaient. Puis finalement, l'enfant est venu. L'enfant a survécu une année seulement. Ce jour-là, raconte Newman, un coup de téléphone de la nuit. Son ami pleurait au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Nous venons de perdre l'enfant. Nous, on commence à pleurer aussi au téléphone. Il dit, je n'avais, savais quoi dire au couple, je n'avais rien. Il a dit, écoute, ce que tu peux faire, hein, avant de dormir, et dis à Elisabeth, allez ensemble, vous deux, vous mettre devant la statue de la Pietà. Vous la connaissez, je l'ai amenée aujourd'hui. Il dit, mettez-vous seulement en silence, regardez la statue de la Pietà. En silence, sans rien dire. On ne dit pas toujours tout, il n'y a pas toujours tout, toute la réponse aux choses. Il y a le silence, c'est le silence de Dieu qui est là. Dieu est présent dans le silence. Une fois, j'avais célébré des funérailles ici, et c'est difficile, c'est des funérailles très difficiles. J'ai fait la même chose, j'ai montré la Pietà. Regardez. On regarde en silence. La Vierge, avec son fils, Dieu, tué injustement, impuissante la Vierge, avec son fils dans ses bras. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dans la vie, il y a des cas difficiles, même dans la vie chrétienne. Et tout ce qui est vrai là-dedans, c'est que Dieu est présent même dans les larmes. Dimanche qui s'en vient, ce sera la lecture de la résurrection de Lazare. Alors, Jésus arrive 4 jours après, c'est que Lazare est bien mort. Parce que dans la mentalité juive, eh bien, quand 3 jours sont passés, eh bien, le cadavre commence à pourrir. Alors, il arrive au cimetière, devant la tombe, tout le personnel qui était, tous les amis de Marthe et de Marie sont là, tout le monde en pleure. Jésus regarde, il est ému, commence à pleurer, dit le texte. Il a fait l'expérience de la perte, l'expérience de la mort. Et moi, personnellement, je reste convaincu que Jésus a pleuré plusieurs fois dans sa vie, en voyant tellement différentes situations. Donc, proche, de cœur, il pleure. Donc, en fait, il faut savoir se dire que le silence est important. Il y a certaines situations où il faut se taire, pas faire trop de bruit. Il faut se taire. Parce que quand on parle, on sait même de faire le blasphème. On se tait devant Dieu. Comme Marie, comme les autres personnes. Regardez, j'étais jeune prêtre. Peut-être, à ce moment-là, j'avais peut-être 26 ans, 27 ans. Et puis, dans ma paroisse, il y avait cette dame-là qui est venue me voir une fois. Et puis, elle me dit que son fils était tout le temps malade. Si je pouvais, de temps en temps, venir à l'hôpital, prier avec elle et son fils. Alors, je dis, ben, c'est bien. C'est ce que j'ai fait. Souvent, j'allais prier là. Elle me disait qu'elle a eu de la difficulté aussi pour avoir cet enfant-là. C'était difficile, mais finalement, elle a eu. Voilà qu'un jour, je pars, là je me rends compte que je demande aux religieuses qui étaient là, des dominicaines, j'ai dit, mais la dame, je ne la vois pas, je suis parti. Ah, Jacques, son fils est mort. Oh, je n'en revenais, j'étais tellement déçu. Et je dois vous dire une chose, j'ai fait une mauvaise prière parce que j'ai dit, tu sais Dieu là, moi si j'étais à ta place, j'aurais gardé cet enfant en vie. C'était tellement dur pour moi. Alors, les choses ont passé. Je pensais souvent à cette femme-là, à son enfant. Ça me chagrinait. C'était un poids dans mon cœur. Une fois, je me promène dans le centre-ville de Nicassie. J'entends, mais c'est Jacques, mais c'est Jacques. Je me retourne, c'était la dame. Je voulais me cacher. C'est ce que je voulais dire là. La dame arrive toute souriante. Oh, mais Sylvain, vous savez, mon fils là était mort. Hein. Et puis tu sais, maintenant c'est un ange. Il est chez Dieu. Il est en train d'intercéder pour moi. Et chaque fois, je m'adresse à lui. Ouh. Je n'en revenais pas. Pour moi, là, Dieu a refusé ma prière de garder cet enfant en vie. Il a exaucé autrement parce que la femme est venue me donner un enseignement pour me dire qu'il faut aller de l'avant. Donc, pour dire, je crois que dans notre vie, nous devons ouvrir notre cœur, ouvrir nos esprits et être attentifs à la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle de plusieurs manières. Peut-être qu'on peut mettre un chant et puis continuer avec l'autre section du programme. Et puis on va profiter avec ce chant, on fait une quête pendant qu'on chante. J'étais en train de réfléchir ce matin comment aborder ne fût-ce que cette dimension-là de la souffrance présente dans nos vies. J'étais tellement frappé quand je dis que chacun peut prendre des choses comme il veut, mais moi, pour moi, Dieu me parlait. Parce que, écoutez, la fin de la première lecture d'aujourd'hui, de ce matin, qui tirait du livre d'Isaïe. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout le propos. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous oublier. C'est impossible que Dieu nous oublie. Malgré les apparences. Il y a le silence de Dieu. Dieu est présent. Je termine avec ceci. Mon père se mourait à l'hôpital. Alors c'était la première d'eux dans la famille. C'était difficile. Et puis à ce jour-là, je suis parti prier parce qu'il était dans ce qu'on appelle chez nous le soin intensif. Et puis j'avais mon bréviaire, je voulais lire le psaume 50, prier avec lui. Alors les mots ne sortaient pas, je tremblais presque, les mots ne sortaient pas. Il y avait comme dans le coin, un peu plus loin, une infirmière. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris. Qu'est-ce qu'elle avait vu, qu'est-ce qu'elle a compris? Cette infirmière a laissé ce qu'elle faisait, elle venait juste se mettre à côté de moi, sans dire aucun mot. Du coup, j'ai senti toute la force me revenir, la voix sortait et je commençais à parler. Je commençais à dire, j'ai fait la prière. 50. Quand je pense encore à cette infirmière-là, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il est là, en silence. Et nous pensons qu'il n'est pas là du tout, on ne sait où il est, il nous a oubliés. Il est là, en silence. Et c'est lui qui nous permet des fois de passer à travers, sans qu'on le sache. Nous sommes arrivés au Canada, alors j'ai fait venir ma famille, avec deux de mes jeunes frères, avec un neveu. Malheureusement, un de mes jeunes frères, Benjamin, est décédé sur le Canada. Il avait l'âge de 25 ans. C'était difficile. Et puis, à ce jour-là, après les funérailles, nous étions au cimetière. Alors, ce matin de l'enterrer, il y avait des gens qui étaient venus. Et puis, j'ai commencé à prier. Je lève les yeux, je vois Monseigneur Baxter. C'était un prêtre du côté anglophone qui travaillait. Ben, j'étais surpris de voir qu'il était venu. Alors j'ai fait déjà envoyer pour qu'il vienne se mettre à côté de moi pour faire les prières. Il est venu. Monseigneur Baxter n'a jamais dit un mot. Il était toujours là, il priait. Pour moi, c'était beaucoup. C'était beaucoup de sentir cette présence-là, de ce prêtre-là qui était venu. On ne se connaissait pas tellement. Il avait entendu certainement. Et puis, il était là pour dire. C'est comme ça que Dieu fait. Il est présent en silence. Mais il te donne la force. Que tu le saches. Encore faut-il que tu découvres cette force vient de Dieu. Voyez-vous. Alors, si je vous dis cela, c'est parce que Jésus est notre Messie. Alors, quand nous disons que Jésus est le Messie, c'est-à-dire que celui qui est au centre de notre vie, celui qui nous donne toute la beauté de la vie, celui qui nous donne toutes les raisons pour vivre. Quand on dit qu'il est Messie, ça veut dire qu'il est au centre de notre vie. C'est-à-dire qu'il est l'envoyé de Dieu, il est la parole de Dieu, il est le représentant de Dieu. Il y a ce titre-là hein, chez les militaires, le lieutenant. Le lieutenant de. Hein? Jésus est le lieutenant de Dieu. Donc il prend le lieu, la place de Dieu. C'est ça le Messie. Alors le Messie, c'est celui en fait qui nous apprend à trouver Dieu dans notre vie. Parce qu'il faut avoir cette foi-là dans le Messie. Et pour avoir cette foi dans le Messie, il faut reconnaître que c'est lui la signature de Dieu. C'est le dernier mot de Dieu. Après lui, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire que c'est notre unique référence, c'est notre sommet. Après lui, nous savons où aller. Parce que celui qui donne sens à nos vies, c'est lui en fait qui nous fait vivre. C'est ça la signification de Jésus et Messie quand on le proclame ainsi. L'exemple que moi je trouve très expressif, c'est justement dans l'évangile de Saint Jean. Vous savez, Jésus a fait la multiplication des pains. Les gens ont mangé. Ensuite, Jésus se déplace, il va de l'autre côté du lac. Les disciples vont le suivre après. Les foules commencent à le chercher. Mais où est-ce qu'il est donc? Où est-ce qu'il est donc? Le lendemain, il le retrouve de l'autre côté du lac. Alors les gens, mais Seigneur, comment tu es arrivé ici? Nous te cherchons tout le temps. Il dit, c'est parce que vous avez mangé, hein, vous êtes repu et vous me cherchez. Il faut chercher la nourriture d'en haut, la nourriture du ciel, la vraie nourriture, la nourriture de l'âme. Et puis, il continue, il dit, vous savez, celui qui va manger ma chair, eh bien, il n'aura jamais faim. Celui qui va croire à moi, il n'aura jamais soif. Alors là, les gens se sont un peu révoltés. Comment, qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Est-ce qu'on va commencer à manger son corps, sa chair? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, prendre son sang? C'est quoi, ça, ces choses-là? Dit le texte. Beaucoup vont commencer à laisser tomber. Et le texte dit, Jésus regarde autour de lui, il voit que beaucoup sont partis. Alors il pose la question à ses apôtres, voulez-vous vous aussi partir? Il ouvre la porte. Si ce que j'ai dit, vous ne savez pas le prendre, Seigneur qui change, vous pouvez partir. Alors Pierre le regarde, Seigneur, à qui donc irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mes amis, le Messie est celui qui a les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire les paroles qui nous soutiennent, qui nous conduisent chez lui. Les paroles qui nous transforment, qui nous régénèrent, qui nous renouvellent et qui nous guérit. La parole de Dieu peut guérir. Dans le sens que tu peux l'écouter, tu peux la lire ou l'écouter, tu sens que on a répondu à ta question. Tu sens qu'on a répondu à tes attentes. Tu sens que tu as regagné la paix à l'écoute de la parole, à la lecture de la parole. Alors Jésus, c'est la parole de Dieu. Une des choses que j'ai découvertes, nous grandissons tous dans la foi. De tout le temps que j'étais prêtre, jusqu'à peu près, mettons, quand j'étais à Rome, mais c'était 30 ans, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai entendu bien clair pour la première fois à Rome. Il dit, regardez, Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais Jésus, c'est la parole vivante de Dieu. C'est-à-dire, la Bible, je l'ai ici. Mettons, on a le lectionnaire ici. La parole de Dieu, là, c'est bien. Mais c'est pas Jésus, ça. C'est vrai que Jésus est exprimé, est reflété, il est présent, d'accord. Mais pour le christianisme, la parole de Dieu est vivante. C'est une de notre particularité. Nous avons affaire à une personne qui est parole. C'est pas la même chose que le Coran, par exemple, que c'est un livre. Bon, c'est un livre. Le christianisme, il y a la Bible, d'accord. Mais Jésus est vivant, c'est une parole vivante. Nous référons à une parole vivante, nous ne référons pas à un texte, c'est à une personne. Voilà la particularité du christianisme. Et ça m'a pris du temps pour comprendre cela. Je n'avais jamais compris quand j'avais 25 ans de prêtrise, 25, 27. Je l'ai compris aussi tard dans ma prêtrise. Donc, nous avons affaire, notre Messie, comme je disais hier, le Messie est vivant. C'est-à-dire que nous devons apprendre dans notre spiritualité à tisser de relations avec Jésus qui est un vivant. Ce n'est pas quelqu'un de mort, c'est un vivant. Alors quand quelqu'un est vivant, eh bien, tu continues à t'entraîner, à t'exprimer avec lui. Quand je dis que dans le silence, il est à côté de toi, il est à côté de toi. Alors, il a les paroles de la vie vivante, il a les paroles de la vie éternelle. Alors le Seigneur qui dit, eh bien, si vous prenez ma chair, vous n'aurez jamais faim. Parce que quand quelqu'un est repu, quand tu as mangé, et bien mangé là, on pourra t'offrir d'autres plats, ça ne va rien te dire. Ça ne m'attire pas, tu es plein. Tu n'as pas besoin d'aller manger encore parce que tu es plein. Alors, quand Jésus dit, c'est lui qui me mange, je n'aurai jamais plus faim. C'est-à-dire que comme Messie, quand nous avons accepté Jésus, nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. On ne sent pas le besoin d'aller regarder ailleurs. Parce que il est notre Messie, il nous a remplis. Nous sommes repus, nous sommes rassasiés. Notre soif a été étanchée. On n'a pas besoin de boire encore. On a Jésus. C'est cela, le Messie. Ça m'étonnait quand j'avais lu, le texte du pape de l'an dernier, au mois de Carême, quand il disait que parmi nous, les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui vont voir les cartomanciennes là pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans ta vie. On va lire dans les cartes pour te dire c'est quoi qui va arriver. quand on a Jésus, ben, ces choses-là ne préoccupent pas du tout. C'est le Messie qui vient répondre dans nos attentes. C'est comme, c'est préoccupé chaque matin, je me lève, je regarde dans mon journal, horoscope. Maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai le Messie. Je suis déjà rassasié, je n'ai pas besoin d'aller chercher d'autre chose. Alors, c'est dans ce sens-là, quand Jésus dit, eh bien, celui qui boit ma chair, eh bien, celui-là, celui qui boit mon sang, celui-là, il n'aura jamais soif. Celui qui mange ma chair, il n'aura jamais faim. Et la nourriture que je donne, c'est pour la vie éternelle. C'est pour dire que Jésus est Messie, alors nous ne nous tenons qu'à lui. Pas pour le plaisir de nous tenir qu'à lui, parce que nous sommes convaincus, nous avons fait l'expérience que oui, c'est lui qui répond à nos attentes aujourd'hui, c'est lui qui répond à notre besoin, c'est lui qui vient satisfaire nos attentes, qui vient nous rassasier et qui vient étancher notre soif. C'est ça la signification du Messie. Alors quand je prends un autre exemple toujours du Messie, vous connaissez l'histoire du baptême de Jésus. C'est une belle histoire. Quand on arrive à l'interpréter à partir des Écritures, regardez, il est dit que quand Jésus est entré dans le baptême, dans l'eau du Jourdain, alors à ce moment-là, le ciel s'ouvrit. Et la voix du Père, l'Esprit descendit, et puis la voix du Père, voici celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, pour un juif de ce temps-là, pour les congénères de Jésus de ce temps-là, le message était clair. Parce que depuis longtemps, le ciel était fermé. Il n'y avait pas tellement de communication entre Dieu et l'humanité. Le ciel allait s'ouvrir avec l'arrivée du Messie. Alors, le message est clair. Alors, avec Jésus, le ciel s'est ouvert. Il n'y a plus de firmament entre nous autres et Dieu. Il n'y a plus d'obstacle entre l'humanité et Dieu grâce à Jésus. Avec Jésus le Messie, eh bien, nous allons directement chez Dieu le Père. C'est notre chemin, c'est la voie vers la vie. Voilà pourquoi il nous ouvre cette voie-là. Donc, Jésus Messie, c'est celui qui nous conduit au Père. Et voilà pourquoi lui-même nous dit, quand vous priez, dites Abba. Il nous donne les mots. Jésus est Messie parce qu'il nous entraîne, il nous dit comment prier même. Nous utilisons le mot de Jésus pour prier Abba. Alors le Notre Père, c'est la prière de Jésus. C'est la prière des enfants de Dieu, c'est la prière de la famille de Jésus. Vous vous rappelez quand à la résurrection, il dit à Marie-Madeleine, « Va dire à mes frères, donc les apôtres, que je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Le Dieu de Jésus, c'est le nôtre. Le Père de Jésus, c'est le nôtre. » Voilà pourquoi il nous apprend le Notre Père, Abba. Avec ces mots de tendresse, d'intimité, ces mots qui reflétaient en fait la relation intime qui existait entre lui et le Père. Mais là, il faudrait partir, parler peut-être de certains exemples pour nourrir notre foi. On va peut-être chanter un tout petit peu. Et puis, on va terminer avec juste quelques exemples pour nourrir notre foi de chrétien. Pendant qu'elle met quelque chose, ben, on va continuer à réfléchir. On peut se mettre debout pour chanter.
Yes.
Je vais faire la conclusion, mettons qu'on va terminer à 8h moins 10. Voici, moi je termine à 8h moins 10 pour parler. Donc, voici, par exemple, moi je me dis, regardez, le Messie, nous avons dit, c'est celui qui donne sens à nos vies. Vous savez très bien que notre nom de chrétien vient du Messie, parce que chrétien, Christ, en grec, c'est Christos, c'est-à-dire Messie, en fait. Et puis, nous, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes levés, comme j'avais dit une fois, nous ne sommes pas levés le matin. Nous, là, nous allons nous appeler chrétiens, nous, les disciples du Christ, du tout. En vivant en Antioche, les païens qui voyaient les disciples du Christ vivre, ils les ont surnommés chrétiens. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'ils faisaient, tout leur projet, toute leur manière de vivre, leur référence, tout, Christ, 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 Christ. Ce sont des chrétiens en français. Donc, les premiers disciples ont compris que être disciple de Jésus, c'est être comme lui, c'est le suivre, c'est prendre son élan, c'est prendre son esprit, c'est s'exprimer comme lui, c'est être comme lui. Alors, vous et moi, puisque nous sommes des chrétiens, c'est ça notre but, c'est ça notre mission, c'est être comme Jésus, faire comme Jésus, parce que nous sommes des messies aussi, Christ, nous sommes des messianiques, des suiveurs du Messie, des suiveuses, tu vois. Je donne, regardez Saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui s'est converti jeune, c'était quoi son souci? À l'époque où l'Église semblait prendre cette direction de puissance, de richesse, d'éclat, Saint François d'Assise sort et dit, non, retournons chez Jésus, revenons à l'Évangile, revenons au Messie. Regardez comment il est, regardez comment il a vécu, il est né dans une étable. Cherchons la voie simple, cherchons des choses simples. Son invitation, c'était revenir au Christ. Et c'est une invitation qu'il nous lance aujourd'hui. Nous, dans notre vie, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons, dans nos problèmes, dans nos hauts et nos bas, il faut revenir au Christ, il faut revenir au Messie, il faut revenir à Jésus. C'est-à-dire qu'il faut continuer à s'inspirer de lui, il faut continuer à boire à sa source, continuellement. Alors, il y a cette belle prière de François que vous connaissez, et puis je vais lire rapidement, parce qu'on la connaît, mais j'aime beaucoup la dernière partie, quand il dit, voilà, là où il y a la haine, que je mette l'amour. C'est ça la mission du chrétien. Là où est l'offense, que je mette le pardon, c'est ce que Jésus a fait. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Écoutez ce qui est très beau ici. Faites que je cherche pas tant à être consolé que de consoler. D'être compris que de comprendre. D'être aimé que d'aimer. Parce que c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on obtient le pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. La prière de François. En fait, la vie du chrétien, c'est toujours l'autre. Tu te décentres et puis tu donnes le centre à l'autre. La vie du chrétien, quand je dis comme ça, ce n'est pas que moi, je suis spécialiste, je le fais. J'essaie de le faire aussi. Mais c'est là l'orientation, c'est là la voie. C'est que ce qui prime, ce qui vient en premier, c'est l'autre. Eh bien, comme couple, ce qui vient en premier, c'est ta femme. Comme homme. Et comme femme, ce qui vient en premier, c'est ton mari. Voilà. Alors, c'est continuellement comme ça. Vous êtes des amis, celui qui vient en premier, c'est l'autre, ce n'est jamais toi. Ça, c'est la vie chrétienne, c'est la vie du Christ. Et François l'exprime très bien. J'aime beaucoup cet exemple que nous a donné toujours notre ami Newman Henry, parce qu'il avait dessiné, il avait beaucoup aimé l'image que vous connaissez sans doute, le Jésus de Roublev. Alors lui raconte qu'une fois il est parti à Paris en voyage, et il s'était donné comme mission d'écrire quelque chose sur l'image de Jésus de Roublev. C'est surtout les yeux qui se ressortent, une belle image, mais on est frappé des yeux. Alors, il dit qu'il est arrivé dans sa chambre, il a essayé, ça ne tenait pas. Il ne pouvait pas pondre, impossible. Alors, deux, trois jours passent, rien. Alors il dit lui-même qu'il s'est mis en prière. Il commence à implorer le Seigneur, à implorer l'Esprit pour que le Seigneur l'aide, lui donne les mots, lui donne l'intelligence, la lumière nécessaire pour arriver à écrire quelque chose sur son image, l'image de Jésus. Et il raconte, après 3 jours de prière, boum, les idées commencent à venir, à se précipiter. Et il a écrit un très beau texte. En fait, il dit, parce que quand tu regardes cette image-là, si tu es ce côté-là, tu vois comme si les yeux de Jésus te suivaient. Tu es ce côté-là, les yeux de Jésus sont partout. Alors il dit, mais je constatais que le regard de Jésus est un regard tendre. Il est partout, il te voit partout, mais ce n'est pas un regard qui te punit, qui te surveille, non. Mais c'est un regard qui t'accompagne, qui te soutient, qui est avec toi, dit-il. Et moi j'ajoute, en fait, c'est le regard des parents. Vous travaillez à la cuisine, les enfants sont en train de jouer là où les petits-enfants, vous travaillez, mais vous avez un œil là qui ne s'efface pas mal. Hein? Ça, c'est le regard de Jésus, c'est le regard de Dieu. Que Dieu nous voit partout, ce n'est pas qu'il nous surveille, c'est pour veiller sur nous. Et le Messie, c'est ça, c'est pour veiller sur nous. Alors, il y a ceci qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. On dit que Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et demain, il est le même. Le Jésus des évangiles n'a pas changé. Les biens qu'il a fait dans les évangiles, il continue à les faire aujourd'hui. Il n'a pas changé parce qu'il est dans l'absolu, parce qu'il est Dieu. Alors c'est que, puisque Jésus est toujours présent, il est dans l'absolu, alors je peux m'entretenir avec lui. Ce qui est dans l'absolu, il est dans le divin. Le divin est partout, il est continuellement présent. C'est que Jésus est toujours dans le présent. Alors il faut continuer, vous et moi, nous sommes appelés à continuer à nous tourner vers lui et à demander son assistance continuellement dans notre vie. Voilà mes amis, ce que j'ai pensé vous refléter en gros pour réfléchir sur notre engagement envers Jésus, sur notre vocation de chrétien. J'ai mis au centre Jésus-Christ. Je me suis dit au début, écoutez, Jésus-Christ, voyez-vous, c'est toujours des questions qui se posent autour de lui. Ça, c'était notre première histoire. Il y a toujours des questions qui se posent autour de Jésus. Alors, nous aussi, nous sommes en droit de nous poser des questions. Hein, j'ai relevé Jean-Baptiste, par exemple, il se posait des questions sur Jésus. Alors, nous pouvons nous poser des questions. Mais le deuxième soir, j'ai dit, le comble de tout, c'est que Jésus lui-même pose des questions sur lui-même. Pour vous, qui suis-je? Il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Je dis, mais oui, nous devons aussi nous poser la question, mais toi, pour toi, qui est Jésus? Alors, il faudrait que chacun arrive à dire, c'est qui le Christ? Pour moi, en tout cas, avec mon expérience, moi, le thème de la vie me touche beaucoup. Pour moi, Jésus, c'est lui qui me fait vivre, qui me donne la vie. C'est comme ça que moi, je dirais. Pour moi, je dis, c'est lui qui me fait vivre. D'ailleurs, quand vous regardez le mot que j'ai donné pour ma prêtrise, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est un thème qui m'a beaucoup frappé, que je porte toujours. Alors pour moi, en fera Jésus, celui qui me fait vivre, celui qui me donne la vie. C'est comme ça que moi, je dirais personnellement pour quelqu'un qui me pose la question. Alors moi, je me dis, en fait, chacun peut chercher, voir, prier. Il n'est pas dit qu'il doit avoir la réponse aujourd'hui. Il peut venir si tu veux la voir. Il peut venir, tu la cherches, tu la demandes. Alors, ce que j'essaie de conclure aujourd'hui, c'est de trouver comment Jésus est au centre de nos vies. Il est au centre de nos vies. Nous devons nous référer à lui parce que nous sommes des chrétiens. Chrétiens, c'est... Nous appartenons au Christ, nous sommes des suiveurs du Christ. Si nous sommes chrétiens, c'est à cause du Christ. Alors voilà pourquoi il faut le suivre, être comme lui. Et je trouve que la prière de François résume bien ce qu'il faut être comme Jésus, revenir tout le temps à lui. Là où il y a la haine, la difficulté, eh bien tu le fais. Et finalement, ce n'est pas toi qui es au centre, c'est toujours l'autre qui est au centre. Merci.
Alors, cher Abbé Jacques, au nom du conseil paroissial et aussi au nom de tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Gabriel, nous tenons à vous remercier pour les 3 belles soirées de retraite. Votre enseignement fut interpellant et enrichissant, comme toujours. De plus, le thème de la retraite était bien approprié pour notre montée vers Pâques avec la question « Pour toi, qui est le Christ ?» Vous avez expliqué dans un premier temps que le Christ est au cœur même de notre foi, puisque sans le Christ, il ne peut pas y avoir de chrétiens et chrétiennes. Vous avez poursuivi en disant que le carême est une période importante de l'année et peut être divisée en trois thèmes. Le premier, le Christ est mort et ressuscité. Le deuxième, un temps pour préparer les catéchumènes au baptême. Et le troisième thème, un temps pour raffermir notre foi. À cet égard, vous nous avez proposé d'apprendre à connaître le Christ à travers l'Ancien et le Nouveau Testament par les prophètes Élie, Jérémie et Jean-Baptiste, en établissant des comparaisons. Vous avez ainsi donné de beaux exemples pour démontrer que le Christ est encore plus grand que tous ces grands prophètes. Vous avez aussi souligné que le cheminement d'un chrétien ou d'une chrétienne peut être parsemé de questionnements, tout comme Mère Teresa a questionné sa foi durant sa vie. Et puis, vous avez dit que Dieu nous a tous voulus, qu'il nous a pointés du doigt et que notre vie sur terre n'est pas un hasard. Dieu est toujours présent dans nos peines comme dans nos joies. Cependant, il faut savoir ouvrir la porte de notre cœur et lui faire de la place. Donc, qui est le Christ? Le Christ est le Messie des Messies. Et à l'instar des Messies, il a reçu une onction, mais ce fut une onction spirituelle, celle de l'Esprit-Saint. Le Christ est le Messie attendu, le Fils de Dieu fait homme. Mais qui est-il vraiment pour chacun d'entre nous? C'est une question à laquelle, avez-vous dit, nous devons tous répondre dans notre fort intérieur. Tel que vous l'avez souligné, il ne faut pas seulement avoir des formules dogmatiques comme réponse. Au contraire, notre réponse doit correspondre à notre expérience personnelle. Et il me semble qu'il devrait être plus viscéral que cérébral, qu'elle devrait venir du cœur plus que de la raison. En fait, pour moi, il est clair que nous ne connaîtrons jamais entièrement le Christ. Et certainement que la même question suscitera des réponses différentes en fonction de nos expériences et de notre cheminement spirituel. Ainsi, nous tisserons des relations avec Jésus tout au long de notre vie. Mais il est certain que votre enseignement a raffermi notre connaissance du Christ, notre foi au Christ ressuscité, et par le fait même, notre foi en Dieu, puisque le Christ nous mène à Dieu. Cher Abbé Jacques, un grand merci pour cette retraite très inspirante, et en signe de reconnaissance, nous sommes heureux de vous offrir un bouquet de fleurs. Oui, il y a une réception après, tout le monde est invité.
Merci.